Voici la Bourse Cash. Didier Rabattu nous accompagne pour Lombard-Odier IM. Bonjour Didier.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Vous voulez dire aujourd'hui, Didier, leurs quatre vérités au marché. Est-ce que vous êtes sûr?
Si vous voulez, oui.
Pour vous, et c'est le message que vous venez aujourd'hui délivrer au marché, aux investisseurs, pour vous, on est bien face au grand retour des mal-aimés de la Bourse, le secteur des mines et la Chine également. Et c'est peut-être le début de leur comeback. Ce propos, ce constat, vous l'assumez, Didier?
Absolument.
Le retour des mal-aimés en bourse. Le secteur des mines en bourse et la Chine, effectivement, qui retrouvent une forme de surperformance, qui font leur grand retour. Il n'y a pas qu'Apple et la Fed à suivre cette semaine. Il y a aussi, effectivement, ce flanc de la montagne dans l'obscurité. Le flanc obscur existe autant que le flanc dans la lumière. Et il ne faut pas négliger la Chine, il ne faut pas négliger ce retour en grâce également du secteur minier en bourse. Vous y voyez peut-être le signe d'une tendance amenée à durer, éventuellement, Didier?
Oui, la première chose, c'est que les supports, donc des métaux précieux, donc des minières, que sont l'or, l'argent et le cuivre, ont très bien fonctionné sur les dernières semaines. J'imagine que vous l'avez relaté. L'or est pas loin des plus hauts. L'argent est en hausse d'une vingtaine de pourcents. Le cuivre a très bien fonctionné. Or, les minières qui transforment ces trois matières, elles sont très très en retard par rapport à la matière première. Et ce qu'on a pu voir sur les deux dernières années, c'est qu'en dépit de la hausse de l'or, de l'argent et du cuivre, les revenus et les profits montaient peu rapidement. Et la principale raison, c'était que la production en volume était en général trop faible, il n'y avait pas assez de production. Et la deuxième chose, c'est que les coûts, qui sont principalement le diesel et les frais de personnel, montaient trop rapidement à la suite du Covid. Donc les résultats n'ont pas été très bons. En fait, là, il y a deux data points qui sont assez importants, qui se sont passés. Le premier, c'est les résultats de Newmont, qui est la plus grosse société d'exploitation d'or, qui a eu des résultats bien meilleurs que prévus. Puis la deuxième, c'est qu'on voit que le M&A, les fusions et acquisitions, reviennent dans le secteur. Et vous avez sans doute noté BHP et Anglo American, BHP essaie de se rapprocher de Anglo American. Donc en général, quand on a un fort momentum qui se dessine sur les résultats, et c'est vrai que maintenant les revenus sont en train d'accélérer, sont prévus d'accélérer sur la fin de 24 et 25, et en même temps les coûts vont monter moins rapidement, donc le momentum de earnings va être bien meilleur, et qu'il y a du M&A en même temps, en général, surtout quand les valorisations sont basses, c'est très très bon. Et ça, c'est ce qu'on observe dans le secteur des minières. Et puis en fait, on observe la même chose en Chine, où la Chine, à cause de la crise immobilière, à cause d'un ralentissement du PNB, etc., etc., le marché chinois, plus des problèmes géostratégiques, les différents marchés chinois ont été assez faibles, et comme vous l'avez dit, ils recommencent à surperformer. En fait, les résultats publiés par les sociétés chinoises, en dépit d'une croissance économique qui est mauvaise, sont finalement assez bons. Et donc, comme le gouvernement ou le Parti communiste est en train d'essayer de relancer la consommation par différentes mesures, que ce soit pour la consommation, les motos, les voitures, etc., etc. Mmh. On voit que la croissance va se réenclencher très probablement sur le marché chinois. Et on sait très bien qu'en fait, la Chine et les minières, il y a une corrélation qui est assez forte entre les deux. Donc oui, je pense que ce sont deux groupes, un sectoriel, l'autre géographique, qui devraient commencer à bien fonctionner.
La Chine et le secteur minier en bourse. Et Étienne qui nous appelle 15h47 depuis effectivement le cœur de cette séance, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Étienne, début de semaine timide sur le CAC 40. On trouvera bien sûr Didier dans un instant, mais le CAC est en légère baisse là à l'instant.
Et oui, quasiment stable, et il est même sur les plus bas niveaux de la séance, ce CAC 40, alors qu'il était au-delà des 8100 points ce matin. Il est à 8084 points, alors ce qui est marquant, ce sont les volumes d'échanges. Alors, le mois de mai et ses ponts n'ont pas encore commencé, mais là, vous avez moins d'un milliard négocié dans l'indice parisien, donc c'est vraiment très calme pour commencer cette semaine. L'indice qui est pénalisé par le secteur du luxe, qui est en retrait, Hermès perd 1,9%, LVMH moins 1,7%, Airbus, qui a été pénalisé la semaine dernière après sa publication continue de perdre du terrain avec une baisse d'1%. À noter, on fera les comptes demain, mon cher Guillaume, pour la dernière séance du mois d'avril, mais que pour l'instant, eh bien, le mois d'avril est négatif, avec une perte de 1,4% en données mensuelles, le tout après 5 mois consécutifs dans le vert. Donc vous avez, eh bien, à l'image de la séance d'aujourd'hui, une consolidation qui continue de s'opérer avant les rendez-vous majeurs que vous avez cités avec John, à commencer bien sûr par la Fed mercredi soir.
Effectivement, les publications qui ne suffisent pas à rattraper ce mois d'avril. Didier, quelle lecture faites-vous là des publications? On avance bien désormais dans la saison aux États-Unis, mais en Europe aussi où ça a bien accéléré. Est-ce que vous êtes plutôt pour l'instant rassuré ou plutôt déçu?
Bon, la réalité, c'est qu'elles sont plutôt bonnes, hein, puisque 80% des sociétés à l'échelle globale ont plutôt eu des résultats qui étaient au-dessus des attentes. Je crois que la moyenne des résultats au-dessus des attentes est de 8%, donc c'est plutôt des très très bons résultats. Et ce qui est intéressant par rapport au trimestre précédent, c'est que ça s'est relativement bien réparti à travers tous les secteurs. C'est-à-dire que sur les deux dernières années, il y avait des secteurs comme la technologie ou les communication services qui étaient très très forts, et puis il y en avait d'autres qui peinaient. Là, je crois que c'est vraiment across the board, les résultats sont relativement bons, donc c'est plutôt une bonne chose. Et quand on regarde les prévisions des analystes, la réalité, c'est qu'ils ont augmenté pour l'année 24 dans son ensemble, leurs estimés d'environ 2%. Donc pour le moment, la tendance est plutôt bonne pour le moment.
Quelle est la publication que vous allez particulièrement suivre cette semaine?
Je crois que ça a été précisé par la personne d'avant. Vous avez Amazon, ouais. qui est relativement importante, qu'il va falloir suivre. Plus, vous avez raison, il y a deux, trois groupes pharmaceutiques. Il y a encore quelques grosses sociétés qui vont publier, mais c'est vrai que Amazon, c'est un peu ce qu'était Walmart avant, le bellwether de l'économie américaine. Donc, celle-là va être très suivie, oui.
Demain soir, après bourse, Amazon qui va annoncer ses résultats, effectivement. Puis jeudi, on aura bien sûr Apple. Et puis une dernière question aussi sur la controverse du moment. Total Energy qui n'exclut pas de préférer Wall Street à la Bourse de Paris. En tout cas, faire de Wall Street sa place de cotation principale. Peut-être parce que justement, l'ESG bloque trop les investisseurs en Europe, les Européens qui ont tendance à vendre le titre Total Energy alors que les Américains, eux, l'achètent. Si bien que la part des Américains en capital progresse de plus en plus. Les Américains sont bientôt majoritaires, en tout cas, ils prennent le chemin pour devenir peut-être à court terme majoritaire au capital d'un groupe comme Total Energy. Conséquence d'une ESG peut-être plus stricte, trop stricte ici en Europe par rapport aux États-Unis, Didier?
Alors je crois qu'il y a deux sujets. Hein. Sur le sujet de l'ESG, c'est vrai que l'ESG, qui sont l'analyse des pratiques des sociétés, et donc qui sont des analyses non financières des sociétés. Je crois qu'il y a plus l'analyse est plus dure en Europe qu'elle peut être aux États-Unis. En revanche, je pense que là il y a un peu de confusion, c'est que l'ESG n'est pas la soutenabilité. Je crois que le monde dans son ensemble va devoir faire face à une transformation des systèmes économiques, et ça c'est une certitude, et c'est pas des pratiques, c'est pas lié à l'ESG. Il va falloir d'un côté transformer, donc électrifier notre économie. Et ça, que ce soit aux États-Unis, en Europe et en Chine ou en Asie, et c'est en train déjà de se passer. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir transformer nos systèmes alimentaires et nos systèmes de consommation. Et quand vous transformez l'énergie, les systèmes de consommation et les matériaux, vous avez plus ou moins 80% ou 90% de notre PNB. Et ça, ce sont des choses qui se passent en Europe, aux États-Unis et en Chine. Je pense que le problème, c'est que l'Europe l'a regardé de manière très idéologique et régulatoire. Les États-Unis et les Chinois l'ont regardé de manière très capitale, en faisant venir du capital, en utilisant l'arme fiscale et en utilisant en association l'industrie et la technologie. Ce qu'on n'a pas fait en Europe. Et je pense que ça, c'est le réel problème de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe régule pendant que les États-Unis et la Chine injectent du capital, injectent de la technologie. Évidemment, vous connaissez l'Inflation Reduction Act aux États-Unis qui attire un triard de capital. Même chose en Chine avec le gouvernement qui est très pro le développement de l'électrification. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on parle d'ESG. L'ESG, c'est vrai, mais je pense que l'ESG est un micro-sujet. Le vrai sujet aujourd'hui pour l'Europe, c'est qu'elle est en perte de vitesse sur l'association industrie-technologie liée à un développement très fort de la soutenabilité qui devrait amener une transformation de nos systèmes économiques.
Et Total Energy qui n'exclut pas de faire de Wall Street sa place principale de cotation, on en parlera à nouveau. On l'a déjà beaucoup fait vendredi, bien sûr, on était sur la balle. Et ben on le reste aujourd'hui, on en parlera notamment à partir de 17h dans le club et puis aussi au cœur du portefeuille BFM Responsable. Tiens, le titre Total Energy n'est pas présent dans ce portefeuille BFM Responsable. Nos gérants essaieront de justifier ce choix. Voilà. Et donc, est-on un peu trop strict en matière d'ESG en Europe? Question qu'on leur posera aussi. Ce sera à partir de 16h20. Merci beaucoup Didier de nous avoir accompagnés. Didier Rabattu depuis les bureaux de Lombard Odier IM.